Les philosophes ont continué de parler de la volonté comme si c'était la chose la plus connue du monde. Schopenhauer nous donna même à entendre que la volonté est la seule chose qui nous soit connue, parfaitement connue, sans déduction ni adjonction. Mais il me semble toujours que Schopenhauer n'a pas fait dans ce cas ce que les philosophes ont coutume de faire. Il s'est emparé d'un préjugé populaire qu'il s'est contenté d'exagérer. Vouloir me semble être, avant tout, quelque chose de compliqué, quelque chose qui ne possède d'unité qu'en tant que mot. Et c'est précisément dans un mot unique que réside le préjugé populaire qui s'est rendu maître de la circonspection toujours très faible des philosophes. Soyons donc circonspects. Soyons non-philosophes. Disons que dans tout vouloir il y a, avant tout, une multiplicité de sensations qu'il faut décomposer. La sensation du point de départ de la volonté, la sensation de l'aboutissant, la sensation du va-et-vient entre ces deux états, et ensuite une sensation musculaire concomitante qui, sans que nous mettions en mouvement bras et jambes, entre en jeu dès que nous voulons. De même donc que ces sensations de diverses sortes sont reconnaissables comme ingrédients dans la volonté, de même il y entre, en deuxième lieu, un ingrédient nouveau, la réflexion. Dans chaque acte de la volonté, il y a une pensée directrice. Il faut bien se garder de croire que l'on peut séparer cette pensée du vouloir, comme s'il restait encore après cela de la volonté. En troisième lieu, la volonté n'est pas seulement un complexus de sensations et de pensées, mais encore un penchant au commandement. Ce que l'on appelle libre arbitre est essentiellement la conscience de la supériorité vis-à-vis de celui qui doit obéir. Je suis libre, il doit obéir. Ce sentiment est caché dans toute manifestation de la volonté. De même, cette tension de l'esprit, ce regard direct qui fixe exclusivement un objet, l'évaluation absolue de la nécessité de faire telle chose et non point telle autre, la certitude ultime qu'il sera obéi au commandement, quels que soient les sentiments propres à celui qui commande. Un homme qui veut ordonne quelque chose à son être intime, lequel obéit, ou est du moins imaginé obéissant. Or, remarquez ce qu'il y a de plus singulier dans cette volonté, cette chose si compliquée que le peuple ne s'est exprimé que par un seul mot. Je prends le cas donné, où nous sommes à la fois souverains et sujets. Et j'admets qu'en tant que sujets obéissants, nous connaissons les sentiments de la contrainte, de l'obligation, de la pression, de la résistance, du mouvement qui commence à l'ordinaire immédiatement après l'acte de volonté. Le cas où, d'autre part, nous avons l'habitude de passer sur cette dualité, de nous faire illusion à son sujet, au moyen de la conception synthétique « moi », alors toute une chaîne de conséquences erronées et, par conséquent, de fausses appréciations de la volonté s'est encore attachée au vouloir, en sorte que l'être voulant croit, de bonne foi, que vouloir suffit à l'action. Parce que dans la plupart des cas, la volonté ne s'est exercée que quand l'efficacité du commandement, c'est-à-dire l'obéissance, par conséquent l'action, pouvait être attendue. L'apparence seule existante s'est traduite par une sensation, à savoir qu'il y avait là la nécessité d'un effet. Bref, le sujet voulant s'imagine, avec quelque certitude, que vouloir et agir ne font qu'un. Il escompte la réussite, la réalisation du vouloir, au bénéfice de la volonté même, et jouit d'un surcroît de sensations de puissance que toute réussite apporte avec elle. Libre arbitre. Voilà une expression de ce sentiment complexe de plaisir chez le sujet voulant qui commande et en même temps s'identifie à l'exécutant. Qui jouit du triomphe remporté sur les obstacles, mais qui s'imagine, à part soi, que c'est sa volonté elle-même qui triomphe des obstacles. Le sujet voulant ajoute que de la sorte, aux sensations de plaisir que lui procure le commandement, les sensations de plaisir des instruments qui y exécutent et réalisent ces volontés secondaires, puissances subanimiques qui obéissent. Car notre corps n'est qu'une collectivité d'âmes nombreuses. L'effet, c'est moi. Il se passe ici ce qui se passe dans toute communauté bien établie et dont les destinées sont heureuses. La classe dominante s'identifie au succès de la communauté. Dans toute volonté, il s'agit donc en fin de compte de commander et d'obéir. Et cela sur des bases d'un état social composé d'âmes nombreuses. C'est pourquoi un philosophe devrait s'arroger le droit d'envisager la volonté sous l'aspect de la morale. La morale, bien entendu, considérée comme doctrine des rapports de puissance sous lesquels se développe le phénomène vie.